Les voies de service, mercredi 31 janvier. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Vous avez pas dit l'année?
Ouais, non, ben là, c'est ça. Le nombre d'erreurs est augmenté à chaque fois que j'ajoute des données. Donc, je m'en tiens au minimum. Alors, ben bonjour tout le monde. Bonjour,
bonjour
Serge.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Daniel. Aujourd'hui, on va vous parler de toutes sortes de choses, comme d'habitude. Et à commencer par Serge, de quoi vous allez nous parler?
L'éveil de l'écologie.
L'éveil, hein?
Oui, éveil de l'écologie. Et également, ces deux articles qui viennent de la Presse Plus du 31 décembre. Et là, c'est la dernière fois que je vous achète avec le 31 décembre. la deuxième est bien amusante, c'est parce que c'est la vision, les prédictions de ce que serait le monde dans 100 ans. C'était fait par la presse.
Fait il y a 100 ans?
Ou... Oui, en 1907, 10 à peu près.
C'est toujours intéressant de voir ça en rétrospective.
Et puis, il y a vraiment des choses, vous allez voir, c'est assez surprenant.
Ouais, réalité,
ouais. Oui, oh, oui, très, oui.
Et en musique, Daniel, de quoi vous allez nous parler?
Mais je vais vous parler d'une chanson qui est une chanson de Bob Dylan qui est devenue un classique parce qu'elle a été reprise par quelqu'un d'autre et je vous dirai qui tantôt.
Ah.
Et un chef d'orchestre assez surprenant. En deuxième partie, je vais vous parler de ça.
Bien, t'entends ça. Et de mon côté, je vais vous parler d'étudiants Micmac qui vont apprendre la robotique grâce à une subvention gouvernementale et aussi de rebâtir le système judiciaire pour réduire les inégalités, surtout pour les peuples autochtones. Et on commence tout de suite avec vous, mon cher Serge.
Alors, tiré de la presse du 31 décembre, quelle année?
2017.
2017, voilà, bravo Isabelle. Un article d'Étienne Plamondon-Aimont, une collaboration spéciale, Éveil écolo. Alors, la science a aidé à mieux comprendre les problèmes reliés à l'environnement et a incité l'homme à s'en soucier davantage. Bref aperçu de l'évolution des répercussions de l'activité humaine sur l'eau, l'air, le climat, la faune et la flore, et rappel de quelques catastrophes majeures. Alors, commençons par l'air. Le smog, cette menaçante brumée, qu'on a appelé ça.
Mm-hmm.
Dans sa chronique « Le monde de demain » du 23 janvier 1958, William H. Eaton prévient que les grandes villes nord-américaines devront faire face au smog, qu'il nomme « brumée », dans les années à venir. Les hommes de science qui s'adonnent à la lutte contre la pollution de l'atmosphère s'accordent sur un point. La brumée est une menace grandissante à la santé des citadins et peut fort bien constituer l'une des principales causes du cancer du poumon, avertit-il. Le 9 mars 1968, le journaliste André Béliveau dresse un constat alarmant de l'air de Montréal, graphique à l'appui. Le plus polluant des combustibles est le charbon, qui libère chaque jour dans le ciel montréalais 100 tonnes d'oxyde de soufre et d'hydrogène sulfuré, et 500 tonnes de particules solides.
Wesh!
Oui, environ 600 autres tonnes proviennent de la combustion de l'huile, du gaz et du bois, prévient-il. Alors, ça a dû diminuer parce qu'on a dit beaucoup
d'électricité. C'est ça, de ce côté-là, on a dû améliorer les choses.
Au Canada.
Oui, okay, c'est ça.
Particulièrement au Québec, à cause de notre hydroélectricité.
La couche d'ozone, un bouclier fissuré. La répercussion de la pollution atmosphérique ne s'observe plus seulement dans les villes. Dès 1974, plusieurs études démontrent que les chlorofluorocarbures, les CFC, notamment ceux utilisés dans les réfrigérateurs et les aérosols, endommagent la couche d'ozone, bouclier naturel contre les rayons ultraviolets du soleil. Quant à la pollution émise par les cheminées industrielles et les voitures, les recherches indiquent que les gaz, en particulier l'oxyde de soufre et l'azote, sont transportés par les vents et retombent des centaines de kilomètres plus loin sous la forme de puits acides. Pour tenter d'enrayer le phénomène, le Canada et les États-Unis prennent des accords sur la pollution atmosphérique et transfrontalière. Les gaz à effet de serre sèment l'inquiétude. En septembre 1987, 27 pays concluent le protocole de Montréal pour éliminer progressivement les chlorofluorocarbures, les CFC. À la veille de cet engagement historique, le 12 septembre, le journaliste André Noël souligne néanmoins une nouvelle menace décelée par les chercheurs, le gaz carbonique forme un voile autour de la Terre et empêche la chaleur de se dissiper comme autrefois dans le cosmos, écrit-il. Les gaz à effet de serre, les GES, sont l'un des facteurs responsables du réchauffement climatique. Les émissions canadiennes de GES en 2015 équivalaient à 700 mégatonnes de dioxyde de carbone.
Ça doit être beaucoup, mais...
C'est dur à évaluer.
Ça nous dit rien, hein? C'est non, ça le problème, c'est des gros chiffres, mais...
Maintenant, regardons l'eau. Des eaux impropres à la baignade à Montréal, dès 1958, l'alerte est donnée. Montréal, une île entourée d'eau polluée, titre la presse dans un texte de Fernand Lévesque, publié le 29 novembre. L'heure est aux premières enquêtes sur l'état des cours d'eau dans la région métropolitaine, alors que la ville déverse ses égouts dans le fleuve et dans la rivière des Prairies. Dans l'article, on apprend qu'au lac Saint-Louis, le nombre de coliformes fécaux de type E. coli dépasse les 20 000 par centimètre cube, soit bien au-delà de la norme qui est de 2500.
Ça nous donne vraiment une idée.
Oui. 2500 à 20 000. Cette norme 2500 est établie alors qu'aux États-Unis, établie alors aux États-Unis pour la baignade. Dans la région de Montréal, ce taux est partout supérieur à 5 000.
Donc, c'est déjà le double.
Oui. La première marée noire apparaît en 1967. Le 18 mars de cette année, le pétrolier Torrey Canyon s'échoue près des côtes de Cornouaille en Grande-Bretagne et le mazout déversé se rendra jusqu'en Bretagne. Ça a traversé la Manche.
Wow, ouais. C'est toute une distance.
Avez-vous déjà entendu parler des îles de plastique?
Oui.
C'est terrible.
À partir de 1988, la station d'épuration Jean R. Marcotte de Montréal ne rejette que des eaux traitées dans le fleuve Saint-Laurent, mais de nouveaux polluants émergent, parmi eux les perturbateurs endocriniens issus des produits pharmaceutiques qui dérèglent la production de certaines espèces aquatiques. Et quant aux océans, ils sont désormais pollués par des milliers de tonnes de déchets de plastique qui flottent en amas ou se détachent en microparticules et sont absorbés par la faune marine. On dit que ces îles de plastique-là, là, c'est la grandeur, il me semble, de la France.
On commence même à parler d'un continent continent. C'est assez effrayant.
Déprimant. La faune et la flore. Le DDT et ses effets sur les oiseaux. L'utilisation massive du DDT dès les années 50 a eu par ricochet un impact majeur sur les oiseaux qui s'alimentent d'insectes, évidemment.
Oui.
En 1962, un livre sur le déclin éventuel de plusieurs espèces d'oiseaux devient l'une des bougies d'allumage des mouvements écologistes aux États-Unis. Dans Printemps silencieux, Silent Spring, la biologiste américaine Rachel Carson documente les répercussions nocives de l'utilisation des pesticides, particulièrement le DDT, sur l'environnement et la reproduction des oiseaux. Le recours au DDT sera finalement interdit dès 1972 au Canada et aux États-Unis. On dit qu'il y a des milliers de disparus. En prévision du sommet de la Terre de Rio, le journaliste André Noël brosse en 1992 le portrait de la protection des espèces animales végétales dans une série de textes. Il cite les travaux du biologiste Edward O. Wilson de l'Université Harvard, qui estime qu'environ 50 000 espèces disparaissent ou sont condamnées à l'extinction chaque année uniquement dans les forêts tropicales.
C'est impressionnant.
Ouais.
Des espèces animales ou des insectes?
Des insectes, oui. Il y a quelques catastrophes en terminant. Tchernobyl, évidemment, ça vous dit quelque chose. Oui. Vous rappelez-vous, Bhopal?
Mais justement, quand on parle de DDT, c'était pas une usine, justement,
Le 3 décembre 1984, un incident survient à l'usine de pesticides d'Union Carbide à Bhopal, en Inde.
Ah, Union Carbide, je cherchais le nom.
Les gaz toxiques qui s'en échappent font des milliers de victimes, tandis que des milliers d'autres sont menacés de cécité. En 2009, l'usine en ruine continuait de rappeler aux habitants de Bhopal la triste tragédie. Il y a l'incendie toxique ici, près de chez nous, à Saint-Basile-le-Grand.
Saint-Basile-le-Grand avec les pneus,
Oui. Un incendie se déclare le 23 août 88 dans un entrepôt de Saint-Basile-le-Grand où se trouvent 75 000 litres de biphényl polychloré BPC. L'utilisation de ce produit est déjà interdite au moment de l'événement. Une fumée hautement toxique s'en dégage et force l'évacuation de milliers de personnes dans la région.
Les pneus, c'était ailleurs, c'était à quelque part d'autre.
C'était déjà 30 ans, presque.
J'ai un ami, moi, qui était à ce moment-là au service d'incendie de Montréal, et on a passé proche d'une catastrophe, et on le sait pas, mais majeur. Ils ont été, je pense, ils nous ont dit, à 2 heures près, d'évacuer Montréal au complet.
Au complet!
Si le vent changeait... Une chance que le vent n'a pas changé et resté dans la direction où c'était. Parce qu'à un moment donné, ils ont eu une alerte météo disant que le vent était pour changer de côté. Il fallait qu'ils évacuent Montréal au complet.
C'est incroyable.
Oui, la fumée était très épaisse. On voyait ça de très loin. On ne sait pas à quelle distance.
Ah oui, c'était vraiment impressionnant.
Ensuite, vous avez eu tsunami et accident nucléaire de Fukushima. Et l'accident nucléaire de Three Mile Island, ça vous rappelle, en 1979, aux États-Unis?
J'étais trop petite.
Des rayons de la mort fusent d'une centrale nucléaire, titre la presse, le 29 mars 1979, alors qu'un accident s'est déclaré la veille à la centrale de Three Mile Island, près de Harrisonburg, en Pennsylvanie. Wow. Une série de défaillances techniques ont entraîné la fonte d'une partie du cœur du réacteur. Cet accident a poussé les États-Unis à abandonner la construction de nouvelles centrales nucléaires et a suscité une vaste réflexion sur l'utilisation du type de l'énergie. Et voilà. Ben. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth.
Et j'imagine que vous avez reconnu, oui?
La douce voix de...
De?
Bob Dylan?
Oui, absolument.
J'avais dit le Bob Dylan.
Un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone magazine qui date du 28 janvier 2018, donc c'est assez récent. Radio classique All Along the Watchtower. C'est la chanson qu'on vient d'écouter. C'est l'un des rares cas dans l'histoire de la musique rock où le créateur d'une chanson finit par adopter la version qu'en a donnée un autre artiste. Composé par Bob Dylan pour John Wesley Harding, le titre de l'album. Mm-hmm. All Along the Watchtower est atomisé par Jimi Hendrix qui, dans un déluge électrique, propulse ses trois accords vers les étoiles. L'histoire, c'est un bouffon et un voleur qui bavardent à l'ombre d'une tour de guet. Il doit bien y avoir un moyen de s'échapper d'ici, dit le bouffon au voleur. Pas la peine de t'exciter, répond ce dernier. Nous sommes plusieurs à savoir que la vie n'est qu'une plaisanterie. Drôle de texte, mais c'est en anglais, c'est à peu près ce que ça dit. C'est surréaliste comme conversation, digne d'un extrait d'Alice au Pays des Merveilles, inaugure les premières paroles d'une chanson doublement célèbre. Un morceau dont la reprise a même dépassé en renommée la version originale, à tel point que Bob Dylan, son créateur, s'est empressé d'adopter l'arrangement de Jimi Hendrix, son interprète. Nous sommes à la fin du mois de décembre 1967 et un Bob Dylan, dont on était sans nouvelles depuis son mythique accident de moto 18 mois auparavant, publie enfin un nouvel album. Ça s'intitule John Wesley Harding et ça ressemble peu à l'opus précédent, Blonde on Blonde. Blonde on Blonde. Ça a l'air drôle quand on le dit de même.
Blonde
vite,
sur blonde. Blonde,
ouais, franchement. Ouais. Enregistré en une douzaine d'heures au studio Columbia de Nashville, le disque semble renouer avec le folk acoustique des débuts du Zim. Le Zim.
C'est qui Zim? C'est le Zim.
Parce que le vrai nom de Bob Dylan, c'est Robert Zimmerman.
Ah, oui.
Alors, il semblerait que certains journalistes français l'appellent le Zim, mais je n'avais jamais entendu comme ça ici. Bon. Parmi les chansons, l'une se distingue par son texte mystico-ésotérique à la narration déconcertante. All Along the Watchtower, la structure de trois accords pour trois couplets sans refrain, est truffée de double sens et de références bibliques empruntées au livre d'Isaïe, plus précisément les versets 5 à 9 du chapitre 21, si ça vous intéresse. Je vais le relire parce que je ne me souviens pas vraiment des allusions.
C'est mon chapitre préféré.
Ça m'avait échappé. Dans une ambiance menaçante d'apocalypse imminente, deux personnages échangent de curieux propos dont la signification a permis à des tribus d'exégètes de gloser indéfiniment. Allusion à la société de consommation, au show business, prédateur, ode à la marginalité, prédiction de fin du monde, et le Joker ne serait-il pas Dylan lui-même? L'auteur, à son habitude, se gardera bien de délivrer la moindre explication. La chanson ne sera publiée que le 22 novembre 1968, soit près d'une année après la sortie de l'album. C'est qu'entre-temps, elle a connu une carrière inattendue par l'entremise d'un autre artiste dont la version transfigurée a cartonné dans les charts. Lorsque Jimi Hendrix a découvert l'album de Dylan, il s'est aussitôt mis en tête d'en reprendre un titre. Fan depuis toujours de Bob, il joue déjà sur scène une reprise de Like a Rolling Stone. Bref, il veut absolument du Dylan sur l'album qu'il est en train d'enregistrer, le futur Electric Ladyland. Le 21 janvier 1968, Jimmy est au studio Olympique de Londres avec son groupe The Experience, Noel Redding et Mitch Mitchell. Tous trois travaillent la chanson en compagnie de l'ingénieur du son Eddie Grammer et de Dave Mason, le guitariste du groupe Traffic, qui pour l'occasion a empoigné une guitare 12 cordes. Entre-temps, le bassiste Noel Redding déclare qu'il déteste le morceau et quitte carrément le studio. Donc, ça ne faisait pas l'unanimité, il semblerait. Et Hendrix confie alors la basse à Dave Mason. La session purement acoustique s'arrête là, mais pas l'histoire de la chanson. De juin à août 1968, au studio Record Plant de New York, Jimmy retravaille inlassablement ses parties de guitare, empile les pistes et finit même par refaire la partie de basse lui-même sur un instrument pour droitier. Il faut dire que Jimi Hendrix était gaucher.
Ah, oui.
Donc, ses guitares étaient toutes montées à l'envers pour jouer. Mm-hmm. Mais là, il a pris une basse droitier, mais il s'est débrouillé avec quand même. Il enregistre 7 versions différentes de son solo, le divisant en 4 sections distinctes entre pédale wah-wah et slide joué avec un briquet en guise de bottleneck. Vous savez, c'est quoi un bottleneck? Hein?
Pédale wah-wah, c'est quoi?
C'est, dans le fond, c'est...
Bottleneck, c'est
un genre de tube en vitre qu'on glisse sur les cordes d'une guitare pour faire le son
oui,
de slide.
Okay. Non, j'avais pas.
Il y en a qui utilisent un en cuivre, mais bon, bottleneck, en principe, il est en vitre.
Mm-hmm.
C'est parce que les premiers joueurs de guitare de blues à l'époque coupait le bout d'une bouteille pour l'utiliser de cette façon-là. C'est pour ça que ça s'appelle un bottleneck.
Ben.
All Along the Watchtower, version Hendrix, est publié le 21 septembre 1968 aux États-Unis. Curieusement, 3 mois après sa sortie, Jimmy refusera obstinément de la rejouer sur scène. Moi, j'ai une bonne idée pourquoi. Parce que dans le fond, on l'a dit tantôt, en studio, il a accumulé plusieurs pistes superposées.
Ouais,
il ne peut pas reproduire ça sur scène avec une seule guitare.
Ouais.
Voilà. Ce qui ne sera pas le cas de Dylan, épaté par la reprise du gaucher, qui en adoptera désormais la version, la considérant meilleure que la sienne. Pour que Bob Dylan dise ça, c'est quelque chose. Une version que l'on retrouve sur la plupart de ses albums live et qu'il aurait joué la bagatelle de 2044 fois en concert jusqu'en 2013.
Il y a quelqu'un qui a compté, hein?
Ouais, je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui semblerait qui a compté le nombre de fois. Quand je la chante, affirme Bob, j'ai l'étrange impression que je lui rends hommage en quelque sorte. La chanson a depuis connu un nombre considérable de reprises, dont celle de Neil Young, U2, Grateful Dead, Brian Ferry, Pearl Jam, Eric Clapton, Van Morrison, etc. Et même Francis Cabrel apparemment. Ça, je l'ai jamais entendu, mais... Peut-être que c'est lui qui a écrit les paroles en français. Voilà.
Oui, ça doit être ça.
Et ça continue, le bouffon et le voleur n'ont pas fini de deviser.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited.
C'était donc Jimi Hendrix qui reprenait Monsieur Zimmerman, le Zim, comme on dit.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et ben, pour terminer, enfin, pour ma part, je vais vous amener, comme toujours, je vais vous amener complètement ailleurs. Et cette fois-ci, je vous amène en Nouvelle-Écosse. J'ai pris un article sur le site ICI Nouvelle-Écosse. C'est daté du 24 janvier. 8700 étudiants Micmac apprendront le codage et la robotique. C'est un texte de Radio-Canada avec la presse canadienne et CBC. Donc, c'est vraiment une collaboration. Des enfants Micmac de la Nouvelle-Écosse pourront acquérir de nouvelles compétences technologiques et apprendront le codage informatique en vertu d'un investissement fédéral qui leur ouvrira des portes à l'extérieur des réserves, estime une personnalité d'affaires. Le président du Conseil du Trésor et député de King's Hants en Nouvelle-Écosse, Scott Bryson, a annoncé mardi un investissement d'un million de dollars au groupe All Newegg Development. All Newegg, c'est U-L-N-O-O-W-E-G. Alors, vous déciderez vous-même si je le prononce adéquatement, qui enseignera à 8700 étudiants Micmac le codage, la robotique, la modélisation 3D, les techniques d'animation et la gestion de données massives, le fameux Big Data. Le nombre d'emplois sur la réserve est limité. Je veux que ces enfants voient plus loin et explorent des opportunités, a déclaré Chris Gougou, le directeur des opérations d'All Newegg. S'ils veulent devenir ingénieurs ou travailler en animation, ils peuvent chercher un emploi partout et pas seulement sur la réserve. M. Gougou souligne que les écoles des Premières Nations sont sous-financées. En Nouvelle-Écosse, environ 2 500 $ de moins est consacré à un étudiant autochtone comparé à un étudiant non autochtone, selon lui. Nous amenons ici l'expertise du secteur privé et des universités pour appuyer les écoles des Premières Nations. Les enfants autochtones représentent le groupe démographique le plus jeune et celui qui augmente le plus rapidement au Canada. Des recherches démontrent qu'il est aussi celui qui souffre du plus large fossé numérique, c'est-à-dire l'écart entre les individus ayant un accès sans restriction à la technologie et ceux qui n'en ont pas. « Nous sommes ici pour fermer cet écart », martèle Chris Gougou. L'investissement annoncé en Nouvelle-Écosse fait partie du programme CanCode. Le gouvernement fédéral investit 50 millions de dollars sur 2 ans afin d'appuyer des initiatives pour offrir à des jeunes Canadiens une formation en programmation informatique et améliorer leurs compétences numériques. En Nouvelle-Écosse, CanCode doit aider à former 4 800 enseignants et enseigner le codage à 64 000 jeunes, dont les 8700 Micmac dont on a parlé. All Newegg est l'un des deux organismes autochtones à recevoir du financement dans le cadre du programme CanCode. L'autre est le Manitoba First Nation Education Resource Center, qui procure des ressources éducatives à environ 2000 étudiants provenant de 54 nations autochtones et recevra $500 000 dans le cadre de l'initiative fédérale. Le député Scott Bryson croit que l'initiative pour améliorer la littératie numérique représente dans ce cas précis un investissement dans la jeunesse autochtone. Il y voit une manière d'aider celle-ci à prendre part à l'économie numérique et y prospérer. L'économie numérique est partout. Nos enfants ne peuvent y échapper. Et avec une formation appropriée, ils peuvent aider à la façonner, dit M. Bryson. La littératie numérique est la nouvelle aptitude essentielle pour les emplois de l'avenir, ajoute-t-il. Autrefois, c'était l'ABC. Aujourd'hui, c'est le HTML. Le chef Sydney Peters de la Nation Micmac de Glooskap indique que si les communautés des Premières Nations peuvent s'adapter et profiter de l'évolution des technologies, cela passera par la jeunesse. « Ils semblent déjà si en avance sur nous », lance-t-il en riant. « Créons pour eux cet environnement et cette atmosphère où ils construiront à partir de ce qu'ils connaissent. » Serge, vous avez un petit texte pour nous?
Oui, c'est intéressant, toujours dans la presse du 31 décembre. Je vous jure, c'est la dernière fois.
Encore la même journée, vous avez le droit.
Oui, c'est l'aviation au Canada prend son envol. l'ancêtre d'Air Canada, connaissez-vous?
Ah, mon Dieu, c'était...
Ça me dit quelque chose, mais...
Trans-Canada.
Oui, Trans-Canada.
Imaginez-vous, le 10 avril 1937, le gouvernement a créé Trans-Canada afin de doter le pays d'une ligne aérienne canadienne. Le siège est implanté à Montréal et le centre opérationnel à Winnipeg. Un premier vol trans-canadien de reconnaissance est effectué le 30 juillet 1937. Le Lockheed 10A Electra met plus de 17 heures à réaliser le voyage entre Saint-Hubert et Vancouver.
Oh mon Dieu! Alors que c'est 5 heures aujourd'hui,
oui,
à peu près.
À peu près. Imaginez, en Chine, à ce moment-là, là, ça prenait 3 jours, j'ai l'impression. Ensuite, un avion mythique qui est disparu très rapidement, qui n'a jamais vraiment été en fonction, le CF-105 Arrow. Oui, l'Arrow a été mis au rencard le 10 février 1959. On l'a nommé Arrow, c'est un prototype, avait fait sa première envolée le 25 mars 1958. C'était un avion supersonique qui devait atteindre 2 fois la vitesse du son et permettre d'intercepter les bombardiers, mais le gouvernement a jugé le projet trop coûteux et moins pertinent avec l'apparition des missiles balistiques. C'est le plus grand rêve, ça, le CF-105, le plus grand rêve inachevé de l'aviation canadienne.
Eh bien.
Ouais, il y a d'autres, le CF-100, le Canadair CL-215 pour éteindre les incendies.
Oui, le fameux Canadair dont on parle encore aujourd'hui, et même si ça ne doit pas être le même modèle.
Oui, et qui est très apprécié dans les pays où il y a des incendies.
Exactement.
Comme aux États-Unis, France. Très beau.
Alors, c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission. On vous revient tout de suite après quelques messages et un petit peu de musique avec plein d'autres sujets.
Dans cette ville, la joie qu'il y avait avant. Dans le temps, je suis perdue dans cette ville sans toi, toi qui m'aimais pourtant. Dans le temps, je m'en vais seule au long des roues, retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé. Dans cette ville, j'ai beau chercher, mais plus rien. J'ai beau chercher dans les rues, mais pourtant c'est en vain, tu sais. Ce quartier où l'on ne vit que la nuit, il y a comme avant. Dans le temps, autant de vie, de lumière et de bruit, on y venait souvent. Dans le temps, au club où l'on allait danser, j'ai traîné mon ennui. Quand le barman m'a vu entrer toute seule, il a compris ma grande peine. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il a compris, il a mis l'air que l'on fredonnait, tu sais. Dans le temps, quand on s'aimait, oh oui. Dans le temps, tu t'en souviens, oh oui. Dans le temps, qui a passé depuis. Dans le temps, dans le temps, dans le temps. Changer, mais pourtant tu vas marcher dans les rues, mais rien n'est comme avant, tu sais.
Ce verre d'oreille matinal est une gracieuseté de Mme Petula Clark. On aurait reconnu Dans le temps, version française de la pièce Downtown, également interprétée par Mme Clark en 1972.
Merci beaucoup. Et puis, dans le temps, des fois, on dit que dans le temps, c'était mieux, mais souvent, dans le temps, c'était pas si mieux que ça. Et c'est peut-être une bonne raison de vouloir rebâtir les choses. Alors, j'essaie de faire un lien avec mon sujet. La semaine dernière, le gouvernement fédéral a organisé une réunion d'urgence sur la situation là, des enfants autochtones. Et donc, il y a plusieurs articles qui ont été publiés sur le sujet. J'en ai choisi deux parce qu'ils ne sont pas très longs. Alors, le premier, « Rebâtir le système d'égal à égal », ça a été publié le 27 janvier et c'est signé Pierre Asselin dans Le Soleil. Alors, la ministre des Services autochtones, Jane Philpott, a sans doute le mandat le plus difficile de tous les ministres du cabinet Trudeau, parce que jusqu'ici, dans l'histoire de ce pays, à peu près personne n'a pu le relever avec succès. Assurer que les communautés autochtones aient accès aux mêmes services que tous les Canadiens. Jusqu'à maintenant, le système actuel a créé un véritable tiers-monde dans trop de communautés. Elle doit résoudre ce qu'elle-même a appelé une crise humanitaire où l'adoption d'enfants à l'extérieur des communautés perpétue le traumatisme des pensionnats autochtones, où le sous-financement des services de santé et d'éducation perpétue un cycle infernal de pauvreté et de détresse. Mme Philpott a convoqué cette semaine les représentants des provinces et des communautés à une réunion d'urgence sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, des Inuits et de la Nation métisse. Tout porte à croire que la ministre utilise la bonne approche pour attaquer cette montagne. Son défi est double. Elle doit agir vite, d'abord parce que des enfants, des familles paient chaque jour le prix des politiques actuelles. Mais elle doit aussi agir en profondeur pour jeter les bases d'une nouvelle relation plus saine et équitable entre l'État canadien et les nations autochtones à la grandeur du pays. Il y a des raisons d'être optimiste parce que Mme Philpott pose un regard lucide sur la réalité de l'héritage du système colonialiste dont nous ne nous sommes pas encore affranchis. Dès sa nomination, il y a à peine 6 mois, elle a reconnu l'urgence de la situation, l'état de crise perpétuelle qui est devenu la norme dans ce système. Le système n'est pas brisé, disait-elle jeudi sur les ondes de CBC. Il a été créé pour faire ce qu'il est en train de faire. Et il faut le court-circuiter si on veut que ça change. Le plus tôt sera le mieux. C'est une question de vie ou de mort dans plusieurs des cas. Jeudi sur le réseau APTN, Betty Achni-Pinescum, représentante de la nation Anishinaabe-Aski, qui comprend 49 communautés, a affirmé que depuis 2014, seulement 6 enfants de ces communautés placés en foyer d'accueil en dehors de leur milieu ont trouvé la mort. La moitié des enfants placés en accueil se retrouvent coupés de leur communauté, de leur mode de vie et de leur culture. C'est cela qui doit changer. La ministre Philpott le reconnaît et elle s'y engage et elle est peut-être la plus qualifiée dans ce cabinet pour relever un tel défi. Il faut d'abord aller plus loin pour assurer un réel partage de pouvoir entre les niveaux fédéral, provincial et les Premières Nations pour les services sociaux et de santé. Il faut aussi revoir le système de placement en famille d'accueil afin tout d'abord de faire plus de place à la famille élargie et à la communauté pour éviter que des enfants soient brutalement coupés du monde dans lequel ils ont grandi et leur permettre de maintenir des liens familiaux. La ministre comprend que pour y arriver, il faudra consacrer plus de ressources en prévention qu'en placement pour lutter contre l'alcoolisme, la dépendance aux drogues et la pauvreté. Elle reconnaît aussi qu'il est irrationnel d'offrir une plus grande aide financière à la famille d'accueil non autochtone qu'aux vrais parents de ses enfants. Ces changements doivent s'amorcer dès maintenant, ils doivent être ambitieux et surtout, la ministre doit démontrer que son ministère est prêt à la suivre. Et mon deuxième article, le racisme et la discrimination expliqueraient le nombre élevé d'enfants autochtones dans les foyers d'accueil. C'est un article de l'agence QMI que j'ai pris dans le Journal de Montréal et daté également du 27 janvier. Le nombre alarmant d'enfants autochtones qui vivent en foyers d'accueil est le fruit de la discrimination et du racisme persistant, estime la ministre canadienne des Affaires autochtones et du Nord. Au terme de la réunion d'urgence sur la question des soins aux enfants autochtones, Caroline Bennett a déclaré vendredi que les travailleurs sociaux et les agences devraient y penser à deux fois avant de les enlever à leur famille. Chaque agence doit se poser la question avant de procéder : est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? La ministre déplore que des intervenants sociaux se tournent automatiquement vers les foyers d'accueil pour procurer un meilleur environnement aux enfants autochtones. Soyons honnêtes à propos de la place du racisme et de la discrimination dans ces décisions. Cela doit cesser. La conférence de 2 jours portant sur le thème « The Children and Families Together », les enfants et les familles ensemble, a rassemblé des leaders des communautés autochtones canadiennes avec les membres des gouvernements provinciaux et territoriaux et les ministres fédéraux Caroline Bennett et Jane Philpott. Plusieurs témoignages d'Autochtones qui ont été arrachés à leur famille et trimballés d'une famille à l'autre, avant d'être expulsés du système à 18 ans, ont été entendus lors de cet événement. Les données suggèrent que ça arrive tous les jours au Canada que des enfants autochtones soient enlevés à leur mère à la naissance, a déclaré Mme Philpott, ministre canadienne des services aux Autochtones, au Ottawa Citizen. Mme Philpott a annoncé jeudi un plan en 6 points pour faire face au problème de la surreprésentation des enfants autochtones dans les foyers d'accueil. On revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure dans l'autre article. Les enfants doivent rester avec leur communauté et leur famille, à moins que ce soit absolument impossible. Bien sûr, la sécurité de ces enfants est fondamentale, mais ils peuvent être en sécurité chez leur tante, chez leur grand-mère, dans un programme communautaire de soins familiales. Alors, ne laissons pas la sécurité être une excuse pour retirer ces enfants de leur culture. Sur une note un peu plus positive, Daniel.
Oui, oui, je vous parle. J'ai dit tantôt au début d'émission que je parlerais d'un chef d'orchestre assez particulier.
Oui.
C'est un article que j'ai trouvé. Je voulais vous en parler avant, parce que ça parlait quand même dans l'année précédente.
Mais il y avait tout le temps plein de choses qui arrivaient.
Oui, je l'ai tassé tout le temps.
L'actualité,
mais là, je me disais, il faut que j'en finisse par en parler. Le titre de l'article, c'est « Yumi entre en scène ». Y-U-M-I. Le spectacle précédent, tenu sous le plafond couvert de fresques du très élégant Teatro Verdi à Pise, en Italie, ont compté leur lot de musiciens assis et prêts à jouer avec les yeux rivés sur le maestro. Les solistes aussi n'attendent que le mouvement vers le haut de la baguette du chef d'orchestre pour commencer. Pourtant, ce spectacle-ci n'a rien d'ordinaire, surtout son chef d'orchestre. Cet événement marque les débuts de Yumi, le premier véritable robot collaboratif à deux bras au monde, tout droit de chez ABB, comme chef d'orchestre.
Wow!
Un robot qui a dirigé un orchestre. Ben. Voici le portrait de la scène d'hier soir, ça c'était en septembre, alors que Yumi dirigeait le ténor italien Andrea Bocelli dans un programme de Verdi à un concert de charité pour le gala du premier festival international de la robotique. Plus de 800 autres illustres de partout sur la planète ont pu jouir du programme intitulé « A Breath of Hope, From the Stradivarius to the Robot », ou en français « Un souffle d'espoir, du Stradivarius au robot ». Parmi les invités de cet extraordinaire événement se trouvait le PDG d'ABB, Ulrich Spiesshofer. C'est sous sa direction que Yumi a été créé lorsqu'il était responsable de renverser la situation de l'entreprise de robotique. Le maestro Bocelli chantait dans l'un des plus beaux théâtres de la tradition italienne pendant que Yumi dirigeait la Donna e Mobile sur l'air célèbre de l'œuvre Rigoletto de Verdi. Yumi a poursuivi la direction pendant que la soliste Maria Luigia Borsi chantait l'air classique pour soprano O mio babbino caro, tiré de l'œuvre de Puccini, Gianni Sicci. Pour conclure, Yumi a aussi dirigé un passage de l'intermezzo dans l'opéra Cavaliera Rusticana de Mascagni. Une interlude de 15 minutes dans le programme de la soirée, cet événement unique a démontré que les humains et les robots peuvent collaborer en parfaite harmonie. Diriger un orchestre est l'une des formes d'art les plus exigeantes. Il s'agit de façonner les diverses voix des musiciens en une seule expression au service du compositeur. Yumi figure parmi les formes les plus élevées de la technologie robotique et change la manière dont le monde voit la collaboration entre humains et robots. Le rapprochement si agréable de ces deux arts pendant le spectacle témoigne de la nature évolutive liant l'homme et la machine et de la manière dont ils peuvent travailler ensemble d'une toute nouvelle manière. Moi, ce que je serais curieux de voir à un moment donné, c'est un robot qui dirigerait un orchestre de musiciens-robots.
De musiciens-robots!
Ah, oui, ça, je ne sais pas si un jour on verra ça.
Mais probablement que les musiciens-robots n'auraient pas besoin d'être dirigés par un chef d'orchestre.
Ouais, mais ça enlèverait un peu.
Mais ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de tenter l'expérience.
Andrea Colombini, le chef d'orchestre philharmonique de Lucca, a été le maestro qui a aidé à préparer Yumi pour l'événement. Parce que quand même, ça prend plus que des scientifiques pour préparer un chef d'orchestre. Il a été très enthousiaste devant la technologie sophistiquée de Yumi. Nous avons eu beaucoup de succès à configurer l'interaction entre le coude, l'avant-bras et le poignet du robot en tirant parti de sa polyvalence pendant la tâche exigeante et répétitive de décomposition des temps et des contretemps, a-t-il affirmé. Les nuances de la gestuelle d'un chef d'orchestre ont été reproduites intégralement à un niveau qu'il n'a jamais cru possible. Yumi a atteint un niveau de gestuelle très fluide, ainsi qu'un toucher d'une incroyable douceur et d'une expressivité nuancée. C'est un énorme bond en avant étant donné la rigidité par laquelle les robots précédents s'exprimaient. Mm. J'imagine qu'un robot qui fait sur une chaîne de montage automobile n'a pas besoin,
oui, il a pas besoin de fluidité.
Il a besoin de précision, mais pas autant de fluidité. L'expérience démontre comment Yumi peut facilement être programmée pour accomplir les travaux les plus délicats en assemblage électromécanique. Le spectacle offert par Yumi a été préparé en deux étapes. Des répétitions ont servi à capturer les gestes de Colombini au moyen d'un processus nommé « apprentissage par dispositif de commande manuelle ». Dans la première étape, les deux bras du robot sont d'abord guidés pour suivre les mouvements avec une grande attention aux détails, puis ils sont ensuite enregistrés. La deuxième étape consiste à affiner les mouvements dans le logiciel Robot Studio d'ABB et à les synchroniser avec la musique. Grâce à l'expertise technique d'ABB, l'apprentissage par dispositif de commande manuelle a permis à Colombini de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, donner vie à la musique. Le premier festival international de la robotique visait à diffuser la sensibilisation envers la robotique et ses applications, notamment les robots industriels collaboratifs comme Yumi. Bien que ce spectacle donne un aperçu inspirant de ce que l'avenir nous réserve, il est peu probable que les robots parviennent à combiner l'érudition, le talent artistique, la technique, l'interprétation et le charisme d'un chef d'orchestre humain qualifié. L'objectif est ni plus ni moins de mettre au point des robots industriels plus faciles à utiliser et qui donnent de meilleurs résultats avec une intervention humaine réduite. Tout comme Yumi, a ravi le maestro, les robots font vivre des expériences uniques et excitantes dans leur monde.
Alors, ce qu'on entend, c'est un extrait d'une vidéo que je viens de trouver où on voit justement Yumi dans diverses séquences diriger l'orchestre. C'est quand même assez impressionnant de voir les mouvements du robot diriger tout ce monde-là et tout le monde avoir les yeux rivés avec une appréhension, mais quand même une certaine curiosité, les musiciens, là, c'est ce chef d'orchestre robot. Merci, Daniel.
Bienvenue.
Oui, ça doit être toute une expérience pour un musicien.
Mais juste pour être sûr que j'ai bien visualisé ce que vous avez dit, le robot dirigeait des vrais musiciens puis un vrai chanteur. Là.
Oui.
Okay, bon, c'était pas des voix électroniques.
Non, c'était vraiment seulement le chef qui était un robot. Là. C'est des vrais musiciens.
Ah, c'est intéressant.
Des vraies partitions aussi avec des vrais instruments.
Alors, Serge, vous nous montrez à quel point des prédictions peuvent être erronées ou parfois justes.
Oui. C'est un article de toujours Étienne Plamondon et Mont qui s'intitule « Quand la presse se prenait pour Jules Verne ». C'est amusant.
Oui.
La presse y est allée de quelques prédictions au fil des décennies. Très sérieuses ou carrément loufoques, ces anticipations font sourire, mais aussi réfléchir sur la façon dont notre vision du monde a évolué. Alors, commençons par « Montréal vu par un mage », ni plus ni moins.
Par un mage.
Un mage, oui.
Okay.
Et les mages de qui ont son ivoire Jésus-Christ, le Melchior.
Ah, comme les rois mages. Là.
Comme les rois mages, oui. Alors, la question qu'on a posée, à quoi ressemblera Montréal dans 100 ans? La presse a posé la question en 1905 au mage Papou Gaba Abydos. Un beau nom.
Oui.
Et rapporté sa vision dans le numéro du 21 octobre 1905. Selon ses dires, plusieurs choses disparaîtront. Je commence. Les policiers.
Ah, oui,
c'est en raison de l'adoucissement des mœurs.
L'adoucissement des mœurs.
Oui. Alors, est-ce que ça s'est réalisé?
Est-ce que ça s'est vraiment adouci?
Oui. Ensuite, quelque chose qui va disparaître, la glace et la neige.
Hey boy,
ah, mais attendez.
Non.
Sauf sur les trottoirs.
Non, il a parlé de ça. Il disait, lui, grâce à un système de chauffage électrique souterrain.
On
en parle. Ça se fait ailleurs. Ça se fait dans certains.
Ouais,
on parlait même d'en faire à Montréal pour la rue Sainte-Catherine, mais ça a été abandonné.
Ouais.
Ainsi que la disparition des tramways et des automobiles.
Ah, ben les tramways, oui, mais...
Oui, mais parce qu'ils vont laisser la place à des aéronefs.
Ah oui, ben c'est ça, il y en a beaucoup qui ont prévu qu'il y avait...
En 2000, les autos sont supposées de voler.
Moi, j'ai bien hâte à ça, les aéronefs, comme ça, plus besoin d'être pris derrière la déneigeuse.
Oui,
mais...
plus besoin de déneigeuse.
Plus besoin de déneigeuse, non plus, c'est
ça. Quelque chose de vraiment, là, il avait vu, le mage avait vu quelque chose, là. Les nouvelles seront enregistrées sur des cylindres phonographiques et transmises à toute heure du jour ou de la nuit.
Il y avait quelque chose, ce
au domicile des abonnés qui n'auront la peine que de tourner une petite clé pour en jouir le récit à annoncer le mage.
Non, mais quand même, puis prévoir les trottoirs chauffants aussi, là, il y a 100 ans, c'était quelque chose.
Ensuite, la fin du monde.
Ah,
ben ça, on l'annonce depuis belle lurette.
Oui, c'est ça. Ça, toujours, ça fait partie de toute bonne prédiction
c'est
de prévu.
Sûre.
Oui, c'est ça, la fin du monde.
Sûre.
Ça va sûrement arriver à un moment donné.
Il va avoir une fin quelque part.
Puis en plus, mais le problème, c'est que si ça arrive vraiment, on ne peut pas être fier de sa prédiction parce
qu'il n'y
a plus de monde.
Alors, c'était le 13 août 1898. Le journal accorde une large portion de sa une à des conférences données au Carré Saint-Louis par des prêtres adventistes de passage à Montréal. Un reporter va écouter ses discours selon lesquels la guerre entre les États-Unis et l'Espagne qui avait lieu à ce moment-là constitue un signe avant-coureur de l'apocalypse, comme l'avait prédit un centurion romain. Tant de lunes après la disparition, la citation du centurion romain, tant de lunes après la disparition de cet officier romain viendront tant de soleils qui s'éteindront les uns après les autres, jusqu'à ce que le dernier soit remplacé par la croix lumineuse qui annonce officiellement la fin du monde. Quelle sera l'année? Quel sera le jour? Quelle sera l'heure? Personne ne le dit, pouvait-on lire dans la presse. De quoi laisser les lecteurs sur leur faim encore un siècle plus tard?
La croix lumineuse, c'était pas la croix sur le Mont-Royal?
Peut-être, oui. Une autre prévision, pédaler sous l'eau. Imaginez-vous, oui.
C'est un pédalo qui prend l'eau, c'est quoi?
Oui,
c'est un sous-marin à pédale.
Je vous lis ça. Après avoir fait la conquête de la Terre, la bicyclette va conquérir les mers, indique un article publié dans la presse du 24 mai 1897, illustré par un scaphandrier pédalant sous l'eau. Un certain David M. Tulloch, y affirme avoir réalisé quelques essais dans les fonds marins et admet devoir encore apporter certaines modifications pour répondre aux besoins des plongeurs. C'est pas drôle, il est pas là. Bon, une belle invention.
Ben oui, il travaille encore dessus.
Oui, bien, c'est ça.
Les pédales auraient besoin d'être agrandies pour que le pied de plomb puisse s'y appuyer à l'aise, dit-il. Ah. Selon M. Tulloch, son invention permettrait d'aller plus vite qu'une chaloupe. L'invention n'a finalement pas lancé
une
nouvelle vague.
Mais c'est que le problème, c'est que si on veut se déplacer d'un point A au point B, généralement, on veut transporter des choses, puis on veut être habillé avec des vêtements.
Et puis...
Scaphandre, c'est pas pratique.
Non,
parce que là, il disait que ça irait plus vite qu'une chaloupe, mais il faut mettre
ben,
le scaphandre.
Oui, c'est ça, faut le mettre, faut l'enlever.
Il a été inventé
Il y a ensuite le vieux rêve d'aller sur la Lune.
Ah oui.
Eh oui, Jules Verne, ça avait fait l'expédition sur la Lune.
Mais ça est arrivé.
C'est arrivé, oui. Alors, la rubrique « Les mystères de l'univers » du 21 février 1920 rapporte la volonté de Robert H. Goddard de construire une fusée. La chronique tourne en dérision la démarche du scientifique avec une reconstitution fantaisiste en illustration. Elle indique que les savants déclare impossible le voyage habité vers la Lune et cite l'astronome Camille Flammarion qui ne s'imagine pas un appareil capable de contourner l'astre avant plusieurs siècles et même 2 ou 3 000 ans.
Eh bien, lui, il était
en dehors de la traque. L'être humain posera finalement les pieds sur la Lune moins de 50 ans plus tard. Quant à Robert H. Goddard, il fera décoller la première fusée à carburant liquide en 1926.
Quand même.
Et il donnera son nom à l'un des centres de la NASA.
Eh bien.
Mm-hmm. Ah, celle-là. 4 heures de travail par jour.
Qui a prédit ça?
Dans 100 ans, les hommes travailleront 4 heures par jour, estime un article publié en première page de la presse du 23 août 1923. Ça a dû alimenter les rêves là, de beaucoup, beaucoup de citoyens.
Mais ça a dû faire peur à bien des fonctionnaires.
Ça a dû faire... Oui, exactement, oui.
Comment ça a travaillé plus longtemps que d'habitude?
Il rapporte les prédictions du mathématicien et ingénieur électrique Charles P. Steinmetz. Cette transformation dans les horaires de travail sera rendue possible selon le scientifique par l'électricité. Celle-ci recèle aussi d'autres promesses. Des nuages de fumée ne flotteront plus autour des villes et les rues seront d'une propreté parfaite, prévoit-il.
Bien, probablement que par rapport à... C'est en quelle année, ça?
1923.
23, probablement que les rues sont beaucoup plus propres qu'en 1923. Et quant à notre ville, il n'y a pas de nuages de fumée, mais ça s'est transporté à, dans d'autres villes du monde.
Oui, bien, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis il y avait également, une vingtaine d'années, les publicités Liberté 55, là, bon, c'est ça. Alors, c'est un rêve, ça. On avait prédit, quelques années, une vingtaine d'années, ou en ce que serait je pense que la semaine de travail serait à 20h, 25h, quelque chose comme ça.
C'est ça, 4 heures par jour, c'est 20 heures par semaine.
Dernier article qui s'appelle 33 ans avant l'an 2000. Alors, en décembre 1967, la presse a publié une série intitulée Notre monde en l'an 2000. Elle se basait sur les travaux de la Commission américaine sur l'an 2000. Créée par l'American Academy of Arts and Sciences de Boston. Les prédictions ratent souvent la cible. Colonies humaines dans des villes sous-marines, exploitation minière sur la Lune, véhicules se déplaçant sur un coussin d'air, les aéronefs peut-être. Voitures avec piles atomiques,
C'est pas des piles atomiques, mais il y a des
piles électriques. Ouais. Ouais. Mais d'autres visent juste comme les bouleversements engendrés par les avancées biomédicales et les ordinateurs. Quant à l'utilisation de ces derniers, un article prévoit une mémoire centrale à laquelle seront reliés, par téléphone ou autrement, les petits ordinateurs domestiques. J'ai des amis moi, qui ont installé chez eux. Là, tu tapes dans les mains et tu dis, je ne sais pas trop quoi, allume la lampe. Ou parle le percolateur, parle ci, parle ça. Vous voulez regarder une émission de télévision de votre choix? Légère pression du doigt sur quelques boutons et le tour sera joué. C'est ça actuellement.
Netflix.
Vous voudrez consulter tel ouvrage de bibliothèque, même manège, et les renseignements vous apparaîtront sur un écran.
C'était en 67?
Les prédictions, c'est notre en 67, oui. La presse, ça s'appelait Notre monde en l'an 2000.
C'est impressionnant parce qu'effectivement, il y a 33 ans d'avance. Merci beaucoup, Serge.
Et voilà.
Alors, deux étudiants créent un programme pour favoriser l'accès des Autochtones à la médecine. Deux étudiants de l'Université de l'Alberta ont mis sur pied le programme MD Aide pour aider les jeunes Autochtones et les personnes défavorisées à se lancer dans une carrière en médecine. Emily Fong et Alex Wong disent qu'il est coûteux et difficile de faire les démarches nécessaires pour obtenir une place dans une école de médecine et que ça l'est encore plus pour ceux qui doivent surmonter des barrières socio-économiques. MDAD est un programme de 3 mois pour se préparer aux examens d'admission en médecine MCAT avec l'aide de 4 étudiants en médecine. Ces derniers offriront de l'aide, entre autres, pour du mentorat, la gestion du temps et le format des questions du test, ont expliqué les deux étudiants. Emily Fong et Alex Wong déplorent le manque de diversité dans leur salle de cours. C'est dû à de nombreux obstacles, selon nous, dans le processus d'admission, à la fois financier et social. Un cours de préparation au MCAT peut coûter jusqu'à 1 800 $ et si le test est réussi, les frais de scolarité commencent à 12 000 $ par année, selon le site Internet de l'Université de l'Alberta. C'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Lachance, Serge Bradet. Merci, Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine.
Mercredi, le 7 février.
Là, je vais pas me lancer, là.
Bye.
En février. Bye-bye.